sur 103,5.
Nombreuses sont les femmes victimes de viols qui souhaitent entamer une action en justice contre ceux qui s'en sont pris à elles de force. Mais bien des fois, ces femmes sont limitées à cause de la défaillance du système judiciaire car la plupart des cas sont restés impunis. Que faire alors pour mettre fin à cette impunité? On le saura dans un instant avec Gélie-Laure Mbalivoto, puisqu'elle s'est penchée sur cette question. Et puis juste après, nous recevrons un invité qui est bien placé pour nous donner d'autres détails à ce sujet. Donc mesdames, n'hésitez pas à réagir entre temps 081 070 2050. Gélie-Laure, comment le viol est-il pénalisé ici en République démocratique du Congo?
Oui, pour ce qui est du viol, nous pouvons dire tout simplement que la loi prévoit une sanction de 5 à 20 ans et d'une amende qui ne sera pas inférieure à 100 000 francs congolais. Et pour celui qui, pour celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de violence ou de ménage, de menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par le fait d'une maladie ou pour toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens.
Alors comment mener, sans tarder alors, une enquête judiciaire indépendante et exhaustive sur le viol et veiller à ce que les auteurs soient traduits en justice, parce que bon nombre ne connaissent pas les démarches, hein.
Selon Mme Mushinga, qui est présidente au tribunal de grande instance de Matete, en principe, quand il y a viol, la victime doit porter plainte devant une autorité judiciaire compétente. Donc la loi parle en ce moment-là de la plainte de la victime elle-même. Cette plainte peut être portée soit directement devant la police judiciaire, soit au parquet ou encore au tribunal. Maintenant, le problème peut se poser, selon Mme Mushinga, au niveau de l'instruction. Elle donne ici quelques éléments essentiels pour parvenir à arrêter l'auteur de viol.
Le problème peut se poser de différentes manières. La personne qui a porté plainte, d'abord, elle doit être à même d'identifier l'auteur de l'infraction devant l'OPJ, l'OMP ou devant le tribunal. En plus de cela, pendant l'instruction, il faudra qu'il y ait des preuves. Et la preuve, c'est fait par voie médicale. Donc, il faut qu'il y ait victime, et il faut qu'il y ait d'abord l'auteur identifié, et qu'il y ait aussi la certitude que la personne a été violée. Ça peut être fait par un médecin. Maintenant, il y a aussi le lien de causalité. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait effectivement preuve que, quand bien même la personne, le médecin nous a prouvé que cette personne a été bel et bien violée, mais il faut qu'on parvienne à prouver que l'auteur du viol est la personne qu'on a traduit devant la justice.
On a suivi Mme Mushinga, nous dit qu'il faut d'abord qu'il y ait une personne victime, il faut aussi qu'il y ait des preuves médicales, et après on peut condamner l'auteur du viol. Mais bon nombre de personnes, des femmes qui voient leur affaire au niveau de la justice traîner, se demandent si réellement la justice congolaise existe, si elle est réellement opérationnelle. Est-ce qu'on peut dire, que la justice congolaise est défaillante? Quel pourcentage peut-on faire aujourd'hui des cas de violence sexuelle en RDC qui ont été punis?
Vous savez, Nicole, Human Rights World a fait une étude là-dessus. Et selon cette ONG internationale des droits de l'homme, le problème de violence sexuelle en République démocratique du Congo, c'est un problème grave. Parce qu'il y a des femmes qui voudraient porter plainte contre ceux qui s'en sont pris à elles de force, mais de fois, ou souvent même, elles se sentent limitées parce qu'elles trouvent que la justice congolaise est de fois défaillante. Et pour ce qui est du pourcentage, actuellement, il est difficile de dire exactement combien de cas de violence sexuelle il y en a dans tout le pays.
Car le chiffre, combien de temps ont été punis?
C'est ça, car le chiffre accroît chaque jour aussi. Mais je vous propose de suivre Annick Van Gunderberg, elle est responsable de Human Rights Watch.
Et nous avons remarqué que le système judiciaire en RDC n'est pas vraiment pour le moment capable de le faire. Il y avait quelques cas qui étaient allés dans des tribunaux, mais il n'y a pas beaucoup. Et nous avons remarqué dans plusieurs de ces cas qu'il y a des problèmes pour les victimes, pour la protection des victimes, mais aussi vraiment des problèmes par rapport à la loi.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les statistiques des cas de viols jugés, condamnés sur RDC? Est-ce qu'il y en a beaucoup?
Il n'y a pas beaucoup. La plupart des cas que nous avons remarqués, c'est des cas dans des tribunaux de grande instance à Bunia, en Ituri. C'est là le seul endroit, je pense, où nous avons vu vraiment plusieurs des cas. Mais quand même, ça, ce n'est pas beaucoup. Mais je dois dire, si nous regardons toutes les femmes et des filles qui étaient violées en RDC, suis sûre, moins de 100 cas qui est allé au tribunal, vous voyez que c'est un problème sérieux. On a deux problèmes ici, je pense. La première, c'est le problème par rapport à la justice. Donc, est-ce que vraiment les magistrats et les procureurs, est-ce qu'ils ont toutes les possibilités d'investiguer et d'amener ce type de crimes devant des juges? Le deuxième, c'est le problème pénitentiaire. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec des prisons en RDC, qu'il y a chaque fois trop de personnes dans des prisons ou des évasions dans plusieurs de prisons.
Mmh. Donc, nous venons de suivre Madame Anne Van Woudenberg de Humanity Watch. Elle a dit que beaucoup de gens aujourd'hui au Congo ne dénoncent pas. C'est humiliant de se dire quand elles sont violées, elles ne vont pas au niveau de la justice porter plainte. Et dans bien des cas aussi, les personnes qui devraient être condamnées ne le sont pas. Et le système judiciaire est aussi défaillant, elle l'a reconnu. Alors, connaissez-vous des cas qui ont été jugés et condamnés, mais dont l'auteur a été arrêté?
Prenons le cas de... Il y a deux cas. Mmh. Le cas de... Les cas ont été jugés et condamnés, mais on retrouve que les auteurs se sont évadés. Ici, je prends le cas de Jocelyne. C'est une fille qui a 13 ans. Elle a été violée par un homme de 72 ans, qui est le bailleur de ses parents, ici à Kinshasa.
Mmh.
Actuellement, la cite Jocelyne suit des soins médicaux au centre Nganda, ici à Kinshasa. L'affaire était même arrivée au niveau de la justice, mais selon ses parents, l'auteur de cet acte est en liberté provisoire, après avoir été jugé et condamné même. Nous avons aussi un autre cas, Nicole. Cette fois-là, c'est à Butembo, dans le Nord Kivu. Cathy Foura, elle est défenseur judiciaire près du tribunal de grande instance et membre du Nuage de défense de droits de femmes. Elle explique.
Il y a par exemple le cas d'une famille victime qui avait sa fille, la fille s'appelait Foura. Cette fille avait été violée et après le viol, elle était morte. Et nous avons été saisis par cette famille et nous sommes tombés sur le présumé bourreau. Nous avons fait toute la procédure normale et l'affaire a été fixée au niveau du tribunal. Le jugement a été sorti en notre faveur. Donc on lui avait inculpé de tort de viol et d'assassinat parce que la fille était morte juste après le viol. Et quelques jours après, parce que les prisons ici sont vraiment de passoir, on le voyait déjà circuler dans la ville. Il passait déjà devant notre cabinet. Il est passé à 4 reprises devant notre cabinet. Et nous avons eu peur. Parce qu'à un moment donné, il commençait même à nous proférer des menaces, à nous envoyer de messages nous disant que nous allons fuir la ville parce que nous pensons peut-être que nous avons fait quelque chose de spécial. Nous allons fuir la ville, mais vu ce qu'il a déjà fait pour certaines autorités de la place, il ne peut pas être traîné dans la prison plus de 2 semaines. La famille est venue vers nous et dit que non, voilà, nous sommes menacés, nous sommes attaqués, nous avons de messages qui nous viennent de la part de Charles et nous allons fuir la ville. Nous avons dit que vous n'allez pas fuir, nous sommes allés informer la MONU. Avec cette expérience, beaucoup de victimes de violences sexuelles ne veulent plus être plus amenées ça au niveau de la justice. Ils se disent qu'ils ne servent plus à rien, qu'on amène quelqu'un au niveau de la justice, qu'il soit condamné, qu'il soit jugé et que quelqu'un soit après, qu'il puisse vivre librement. Mais quand les autorités, quand l'appareil judiciaire, mais ces plans de l'excellence, pas dans notre but, nous risquons de faire un travail. Hein.
Pour participer à cette émission, il vous suffit d'appeler au 081 070 2050 pour envoyer des SMS. Aujourd'hui, nous parlons de la procédure à suivre en cas de viol. Tout à l'heure, on a suivi, Cathy Foura, défenseur judiciaire près du tribunal de grande instance et membre de l'ONG des droits des femmes, qui nous a dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de viol, qui ne veulent pas dénoncer les auteurs, qui ne veulent pas dénoncer les auteurs de ces crimes ignobles, tout simplement parce qu'elles ne font pas confiance au système judiciaire. Dans bien des cas, lorsqu'un auteur de viol est arrêté, quelques jours après, il est en liberté provisoire. Et là, il va menacer à nouveau les victimes.
C'est ça, oui.
C'est ça qui n'encourage pas les victimes des viols à dénoncer les auteurs.
Les victimes se sentent de plus en plus en insécurité.
Mmh. Qui sait, on aura peut-être des solutions aujourd'hui avec le secrétaire général de la justice, Kabomba Bendera, que nous allons recevoir dans un instant. Donc, nous invitons vraiment les dames à réagir, pour témoigner aussi au 081 890 63 94. Il y a aussi des cas, je dis, parce que bon, on croit qu'il n'y a que des personnes en liberté provisoire. rares, hein, des victimes, des auteurs qui sont en liberté provisoire, mais il y a aussi des cas qui sont condamnés par la justice congolaise.
Oui, effectivement, nous allons vous donner ici deux exemples à l'intérieur du pays, bien sûr. Au Sud-Kivu, un lieutenant de la 3e brigade Intégra a été condamné à 15 ans de prison et devra payer une amende de 15 000 $ pour dommages et intérêts. C'était le verdict rendu la semaine dernière par le tribunal militaire garnison de Bukavu. Cet officier, Nicole, avait été arrêté à Bukavu en décembre 2006. Il était poursuivi pour avoir violé une femme enceinte et le même tribunal l'a acquitté. Aussi a acquitté un autre policier pour tentative de viol, parce que selon le juge, la réalité des faits n'aurait pas été établie. Le deuxième exemple, c'est dans la province de Katanga. Le tribunal militaire garnison de Bumbashi a condamné toujours la semaine dernière un adjudant de l'armée poursuivi pour viol à 12 ans de prison. Et le jugement a été rendu à la police criminelle. L'inculpé doit également payer 10 000 francs congolais d'amende et 1 000 $ de dommages et intérêts à la victime. Ce sont là deux exemples pour juste faire voir aux auditeurs, à tout le monde, que réellement il y a la justice qui travaille aussi.
Mmh, et qui condamne les auteurs de viol. 15 000 $ américains pour dommages et intérêts pour le lieutenant de 3e brigade.
À Bukavu.
À Bukavu. Il avait payé l'amende, vous avez vérifié?
On reste à vérifier.
Ça reste à vérifier. Hein. Et puis, deuxième cas, 1 000 $ de dommages et intérêts qui doit payer aussi à la victime, hein, pour le deuxième cas. Donc, c'est vraiment une justice qui s'applique à tout le monde. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors, c'est vrai que souvent, il arrive qu'on condamne ces présumés auteurs. Mais pourquoi? Pourquoi bon nombre aussi continuent à vaquer librement, d'autres encore vont en liberté provisoire? Comment expliquer cette situation?
Vous savez, nous avons posé cette même question à Madame Ojinga. Elle est, je rappelle, elle est présente au tribunal de grande instance d'humanité. Elle dit qu'il y a ce qu'on appelle en justice l'instruction préjuridictionnelle et l'instruction juridictionnelle. Elle explique ici la différence.
Il y a l'instruction au niveau de l'OPJ que nous appelons préjuridictionnelle, c'est-à-dire au niveau de l'OPJ et au niveau du parquet. Quand l'OPJ ou l'officier du ministère public a instruit pendant l'instruction, la partie prévenue est présumée être innocente jusqu'à ce que, à ce stade-là, on puisse établir la preuve que c'est cette personne qui a commis l'infraction. À ce stade-là, ce que nous pouvons dire, c'est que cette personne qui est présumée avoir commis l'infraction peut solliciter de l'officier du ministère public, c'est-à-dire du magistrat du parquet, une liberté provisoire. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas encore condamnation. Parce que la loi prévoit les conditions pour lesquelles quelqu'un peut être mis en liberté. Alors, il peut se faire que si cette personne remplit ces conditions, cette personne peut continuer à pouvoir aller répondre aux invitations du parquet et la cause va continuer à être instruite. Ce n'est qu'au moment où le parquet constate que l'infraction est bel et bien établie et qu'il y a des indices de sérieux de culpabilité, c'est alors qu'il saisit maintenant le tribunal pour que le tribunal commence maintenant l'instruction juridictionnelle. Même si le parquet saisit le tribunal, la personne est toujours présumée innocente. Pourquoi? Parce que la culpabilité ne peut être établie que par les cours des tribunaux. Si les juges parviennent à établir qu'effectivement il y a eu viol, à ce moment-là, le tribunal dit que l'infraction de viol est établie, prononce un jugement de condamnation. C'est alors qu'on va arrêter cette personne qui était présumée coupable, devient maintenant coupable et est condamnée.
La culpabilité d'une personne, hein, auteur de viol, ne peut être établie que par les cours des tribunaux. Donc il faut qu'il y ait toute une procédure judiciaire avant qu'on condamne la personne qu'on accuse de viol, Julie Laure Mbalivoto. Pour cela, hein, qui aimerait témoigner, en tout cas n'hésitez pas, 081 070 2050. Et pour cela, qui aimerait aussi nous écrire, écrivez-nous à action@radiocapi.net. Et là, je crois qu'on peut clore le dossier. Hein.
Effectivement, il faut laisser la place à l'invité.
I'm
Nous parlons aujourd'hui de la procédure à suivre en cas de viol. Bon nombre de femmes victimes de viol aujourd'hui hésitent encore à faire confiance à la justice congolaise. Elles hésitent à entamer une action en justice contre ceux qui s'en sont pris à elles de force. Ces personnes qui les ont violées, accusées de viol, tout simplement parce que des fois elles sont limitées à cause des expériences au niveau du système judiciaire. Car la plupart des cas, jusqu'à aujourd'hui, sont restés impunis. Peut-être qu'avec notre invité, le secrétaire général de la justice, les choses ont changé. Kabumba Bendera, vous êtes secrétaire général de la justice ici en République démocratique du Congo. Comment faire aujourd'hui pour que la loi soit réellement appliquée en ce qui concerne les auteurs des viols?
Merci pour la question. Je viens de suivre l'exposé de Mme Muzinga. Je ne reviendrai pas sur la procédure. Si parfois on considère que les magistrats ne font pas leur devoir, c'est par ignorance de cette procédure. Et vous savez que un procès qui doit être instruit au niveau présidentiel, c'est-à-dire du ministère public, et puis au niveau du tribunal, a une longue procédure qu'il faut absolument respecter pour donner la liberté des parties au procès. Et ça qui fait croire parfois que non, on n'a pas tranché, on n'a pas décidé, alors que le ministère public ne peut pas décider parce qu'il est accusé devant le tribunal. Il y a cette ignorance que je signale, parce qu'un jour, quelqu'un venait me voir pour dire que le parquet n'a pas pris une décision, n'a pas tranché. Je dis non, le parquet ne tranche pas. Le parquet relève les infractions, il les qualifie. Alors, il doit se rassurer de la commission réelle de ces infractions, parce qu'ils ont les qualifiés, et les présenter devant la juridiction, c'est-à-dire le tribunal. Et le tribunal doit encore instruire pour apporter toutes sortes de preuves, parce que le juge ne peut prendre une décision que lorsque il le fait en âme et conscience. Donc il y a l'ignorance de la procédure de la part de ceux qui viennent se plaindre devant les juridictions.
Oui, mais bon nombre de personnes aujourd'hui portent plainte. C'est vrai que le nombre est limité parce que certaines, en tout cas, ne font pas confiance à la justice congolaise et estiment que comment expliquer qu'une personne qui a été condamnée puisse par après se retrouver en liberté provisoire et à nouveau venir ainsi les narguer et même les menacer. C'est ça qui est inexplicable.
Non. On ne peut pas être en liberté provisoire après la condamnation. Après la condamnation, on est en prison. La liberté provisoire, c'est avant la condamnation, lorsqu'on constate que la personne accusée ne présente aucun indice de fuite, il a une résidence précise, vous l'avez suivi avec Mme Muzinga. Alors quand quelqu'un voit c'est que cette personne accusée qui a liberté provisoire, quoi qu'on l'a libéré? Non, on n'a pas libéré parce que l'instruction continue. Je dis l'ignorance à ce moment-là.
Oui, l'instruction continue, mais entre-temps, la personne a été violée. Et cette personne qui a commis ce viol se retrouve en liberté provisoire parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves et va jusqu'à menacer la pauvre victime. C'est ça qui laisse un peu à désirer.
Non, madame, on ne laisse pas quelqu'un en liberté provisoire parce qu'il n'y a pas de preuves. Non, c'est pour lui permettre d'être aussi libre. Mais il continue jusqu'au niveau du tribunal. Ce n'est pas à cause de manque de preuves qu'on lui donne la liberté provisoire. Et non.
La liberté provisoire,
pas de preuves, on peut classer le dossier sans suite.
Mais la liberté provisoire,
c'est que Oui, la liberté est reconnue à tout le monde, mais l'infraction reste, on continue l'instruction. C'est tout simplement le changement de milieu. Il reste à la maison, il comparaît. Comme il peut être dans une prison, il comparaît jusqu'à la fin du jugement. Et pris par un tribunal.
Oui, il reste à la maison, il continue à comparaître, mais en tant que bon nombre s'étonnent tout de même parce qu'il n'arrive pas à expliquer cela. Comment une personne qui a commis un viol peut-elle continuer à rester à la maison et même venir les narguer? Ça se fait sans pour autant que la justice soit au courant. Hein.
Non, c'est la loi, parce que quand il est mis en liberté provisoire, il est suivi, il doit être suivi. On lui donne de ne pas se promener n'importe où. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que la personne qui se plaint puisse encore revenir auprès du magistrat pour dire, voilà, ce type est en train de se promener partout. Alors, à ce moment-là, on va le mettre provisoirement en prison, en attendant la suite
des événements. Donc, si on comprend bien, les victimes de viol doivent insister. Ce n'est pas parce qu'elles ont porté plainte qu'elles doivent s'arrêter là, lorsqu'on met une personne en liberté provisoire. À supposer que la personne qui a commis le viol, l'auteur du viol, arrive à nouveau à les harceler, à les narguer, en ce moment-là, elles doivent revenir à nouveau auprès de la justice pour...
Oui, parce que quand l'instruction continue, y compris la plaignante, la plaignante, et c'est pas seulement l'accusé qui comparait jusqu'au moment où on va le déférer devant le tribunal. La personne qui se plaint doit être, parce que le jour de quoi d'instruction, tout le monde est présent, toutes les parties sont présentes. C'est dans ce moment-là qu'il faut signaler à l'officier du ministère public que voilà, cette personne, vous lui avez donné la liberté provisoire, voilà, il est venu encore le menacer. À ce moment-là, le magistrat est tenu de l'incarcérer. Parce que lorsque vous êtes en liberté provisoire, vous n'avez pas de mouvement d'aller à gauche, à droite, vous devez simplement répondre à l'appel, à la convocation d'une façon permanente et on fixe les jours où vous devez comparaître.
Comment expliquer que jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore eu, comme qui dirait, des auteurs qui ont été réellement condamnés ici en République démocratique du Congo, des auteurs de viol?
Je ne sais pas si ce que vous dites est vrai absolument, mais je voudrais donner les causes principales de la lenteur dans l'instruction des procès à partir du ministère public jusqu'au niveau des tribunaux. J'étais à Bounia dernièrement. Il y a d'abord, s'il vous plaît, la précarité des conditions de travail des magistrats. Je n'en fais pas une justification, mais j'en fais une cause. Lorsque le magistrat n'est pas bien payé, et cela est connu de tout le monde, comme de nous tous fonctionnaires, il n'y a pas de motivation. Et c'est psychologique. Et puis, quand il mène une vie là-bas de pauvreté, voilà comment, je ne dis pas seulement les cas de viol, mais tous les cas judiciaires connaissent cette incidence de la précarité des conditions de travail du magistrat. Deuxièmement, il y a l'insuffisance des magistrats. Et à Bounia, j'ai trouvé des centaines de dossiers. Mais au parquet, il y a à peine deux magistrats. Ils doivent quitter Bounia pour aller à Rouma, à Hagi, pour aller rencontrer encore des cas terribles de viol, de tous les crimes possibles. Et vous savez, il y a de l'autre côté l'augmentation du taux de criminalité dans notre pays, dû à la pauvreté, dû au guerre, tout cela. Alors les magistrats ne sont pas suffisants pour pouvoir instruire rapidement tous ces dossiers. Cette carence des magistrats se fait sentir absolument.
Alors en tant que secrétaire général de la justice, comment comptez-vous réhabiliter aujourd'hui ou changer un peu les choses en ce qui concerne les magistrats?
Et maintenant, nous sommes en train de préparer un plan d'action que le ministre de la Justice m'a demandé, conformément à ce que le Premier ministre a demandé, pour que la justice joue son rôle. Il mène une lutte implacable contre la corruption, la complicité, l'impunité et la violence sexuelle sur les femmes et sur les mineurs. C'est le ministre qui m'a demandé. Nous faisons ce travail. Il sera prêt. Mais il y a un problème là-bas, c'est que les magistrats sont devenus absolument indépendants vis-à-vis du ministre et de moi-même.
Comment ça?
C'est dans leur statut, l'indépendance de la magistrature, parce qu'avant c'était le ministre qui affectait les magistrats ainsi de suite. Ça ne sera plus ainsi. Mais nous allons garder la collaboration parce qu'il faut travailler en synergie. À l'extérieur et devant le public, c'est le ministre qui est responsable de la justice. Même si les magistrats sont indépendants, c'est quant à dire le droit et dans le fonctionnement même de leur structure. Mais au plan national, au plan international, c'est le ministre de la Justice qui doit répondre.
Oui.
C'est ainsi qu'il va appeler tous les magistrats à des ateliers. Nous allons tenir des ateliers, des conférences. Les magistrats seront aussi appelés à participer et à la mise en œuvre du programme du gouvernement qui a amorcé cette lutte.
Oui, mais en attendant d'améliorer la qualité du travail des magistrats en tant que secrétaire général de la justice, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez aucune idée du nombre des cas de viol qui ont été condamnés ici en République démocratique du Congo.
Oui, mais vous savez, il y a les viols, c'est souvent à l'intérieur du pays, il faut s'y rendre. Quand j'ai fait le périple de l'intérieur, je me suis rendu de quelques cas, mais dans les prisons. Alors, quand les dossiers tenaient encore au niveau du parquet, au niveau des juridictions, là, je ne peux pas avoir l'information.
Est-ce que il y a des personnes accusées de viols qui ont été condamnées ici dans ce pays?
Oui.
Il y en a?
Oui, il peut y avoir. Moi, j'ai dit que je ne peux constater qu'au niveau des prisons.
Mmh.
Il y en a beaucoup, même de prévenir,
oui,
de condamner.
Tout à l'heure, en tant qu'enquêteur, notre journaliste a eu à faire une petite enquête et elle a découvert qu'un lieutenant de la 3e brigade intégrée a été condamné à 15 ans de prison et devra payer une amende de $15,000 pour dommages et intérêts. C'était le verdict qui a été rendu hier par le tribunal militaire de garnison de Bukavu. L'officier avait été arrêté à Bukavu en décembre 2006. Donc déjà là, il y a eu une condamnation. Autre cas qui a été relevé, c'est que il y a un autre poursuivi pour avoir volé une femme enceinte. Le même tribunal a acquitté un policier poursuivi pour tentative de viol. Donc ça arrive également qu'on acquitte les personnes qui sont poursuivies de viol. Alors comment expliquer qu'aujourd'hui, lorsqu'on condamne une personne, prenons l'exemple de ce cas qui a été condamné à Bukavu, qu'en ce qui concerne l'amende, $15,000 américains pour dommages et intérêts, dans bien des cas on ne paye pas cette amende. Comment expliquer cela?
Oui, mais vous savez que lorsqu'il y a une condamnation, la personne condamnée doit être incarcérée, obligatoirement. Ça, c'est le devoir du juge et du ministère public qui doit contrôler si effectivement la personne condamnée se trouve en prison. Et c'est un devoir. Mais je voudrais soulever notre problème, c'est celui, parce qu'on ne doit pas se gêner de le dire, la corruption. La corruption joue son rôle dans parfois dans l'action du magistrat. Il limite les faits et il prend une décision qui n'est pas conforme à la gravité de la criminalité. C'est la corruption entre là-dedans. La corruption fait que aussi, lorsqu'on a condamné, alors on ne peut plus poursuivre les individus pour les forcer à l'exécution de la décision judiciaire. Mais si réellement il a été en prison, à notre niveau, vous ne verrez jamais l'administration pénitentiaire relâcher quelqu'un. Et ça, nous faisons cet effort-là.
Mmh.
C'est pourquoi dans la réforme que nous sommes en train de préparer, il y aura des séances de travail, il y aura des travaux à synergie.
Mais il faut surtout que les magistrats soient bien payés.
Les agents de l'ordre, tous ceux qui sont intéressés à ce problème, pour qu'on débatte de ce problème, on prenne au sérieux la valeur de la justice.
Oui, mais en attendant qu'il y ait ces rencontres, il faut surtout que les magistrats soient bien payés. Alors, il faudrait revoir les choses aussi de ce côté-là. Mais pour ce qui est de l'amende à payer, dans les cas où on ne respecte pas cela, on ne paye pas l'amende. Hein.
Oui, c'est-à-dire que nous avons déploré aussi en disant que on ne contraint pas. On doit contraindre quelqu'un qui a été condamné. S'il est vraiment pauvre, l'État se charge de ses amendes, mais le condamne encore à des peines subsidiaires. C'est ça le problème.
Et voilà, Kabumba Bendera, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la justice. Vous avez parlé tout à l'heure des preuves que, disons, la partie victime doit apporter au tribunal afin de pouvoir établir les liens de causalité. Est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur ces preuves-là qui doivent être acceptées au niveau du tribunal?
Oui, il y a eu viol quelque part, on accuse. Et l'accusé est présumé innocent jusqu'à la preuve. Et s'il y a des témoins, souvent on recourt aux témoins. On recourt aux indices. À supposer qu'il y ait eu viol quelque part et que le violateur a fui, mais qu'il a laissé un habit. C'est une preuve. Et qu'il y a eu des témoins, parce qu'on ne peut pas juger sans preuve. On a arrêté la personne.
On l'arrête,
c'est une preuve physique. Oui, le viol peut se faire la nuit, la personne disparaît, et la victime connaît qu'il s'agit de cette personne-là. On appelle la personne, et doit apporter la preuve à ce moment-là.
Oui, mais le cas récent, c'est celui de Jocelyne, qui a 13 ans. Elle a été violée par un homme de 62 ans, qui est le bailleur de ses parents. Nous avons même suivi, vous avez suivi ça. Nous avons une dame qui a dit qu'il y avait des preuves apportées à bon et forme, mais jusque-là, la justice a dû relâcher les gars, en complicité, bien entendu, avec les certains magistrats. On a comme l'impression qu'on est en face d'un système judiciaire paradoxalement disciplinaire et maladroit.
Je vous ai dit tout à l'heure que, d'une manière générale, les Congolais sont malades de la corruption, même si tous ne démontrent pas des signes probants. Je compare la société congolaise, ce n'est pas tout simplement la magistrature qui est corrompue, je compare bien sûr, permettez-le-moi, la corruption comme la peste. Vous connaissez l'auteur français, les animaux malades de la
peste. Albert Camus.
Ici au Congo, il faut l'avouer, nous sommes tous malades de la corruption. Pas seulement la justice,
Monsieur le secrétaire général.
Je suis fonctionnaire, je sais ce qui se passe dans les différents ministères.
Monsieur le secrétaire
général. Que nous devons combattre ensemble.
Monsieur le secrétaire général, c'est grave quand celui qui doit combattre, celui qui doit condamner la corruption est lui-même corrompu.
Il doit être condamné. C'est pourquoi il
doit être condamné. Il doit être
supérieur de la magistrature.
Parce que vous avez condamné les magistrats.
Nous avons le conseil supérieur de la magistrature pour condamner. On doit les condamner aussi devant les juridictions. Il n'est pas dit qu'il est exempté de l'accusation. Même quand vous constatez que dans la composition d'un siège, il y a quelqu'un qui peut influencer, vous les récusez. Vous avez toutes les lois qui protègent aussi l'accusateur.
Au niveau de la justice, avez-vous déjà eu l'occasion de condamner certains magistrats qui se sont retrouvés dans de telles situations?
Oui.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de condamner combien déjà?
Condamner les magistrats?
Les magistrats, oui.
Non, je n'ai pas les statistiques, parce que moi, comme secrétaire général, je ne suis pas dans le système judiciaire pour voir les cas de condamnation par-ci, par-là. Moi, je suis dans l'administration générale.
Alors, juste une dernière question. Les problèmes de viol aujourd'hui sont restés des cas de viol impunis au niveau de province, parce que normalement, on ne sent pas la presse judiciaire fonctionner comme il faut. Je prends juste les cas de Kenge, où on a construit un tribunal de paix, mais il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas, donc il n'y a pas de personnes qui doivent dire le droit. Est-ce que vous avez pensé que jusqu'au mois de juillet dernier, il y avait des bâtiments construits, mais il n'y avait pas de personnel?
Bon, je voudrais vous dire que j'ai dit, je ne sais pas si vous m'avez suivi, il y a un déficit criant des magistrats pour l'ensemble de la République. Ce que nous avons décidé, c'est de rapprocher la justice des justiciables en créant des tribunaux de grande instance dans des grandes agglomérations, en créant des tribunaux de paix. Le projet est là, nous avons déjà installé un certain nombre de tribunaux de paix, vous le savez, dans les grandes villes et capitales. Nous sommes allés même dans les cités nouvellement déclarées villes, mais le projet s'est buté au problème de financement. Le budget que le ministère de la Justice reçoit régulièrement du gouvernement ne suffit pas pour continuer, mais pour assurer la création des tribunaux de paix dans l'ensemble de la République qui est un continent. Mais nous allons reprendre le projet, nous allons demander des crédits, et chaque année nous demandons des crédits pour rapprocher la justice des justiciables. Oui. Nous sommes butés au problème des finances, nous sommes butés au problème de la carence des magistrats. Dans le projet que nous sommes en train de préparer avec le ministre, de concert avec les responsables du pouvoir judiciaire, nous allons ensemble répondre à tous ces problèmes. Ce sera planifié. Nous allons planifier. On va installer la justice.
On va voir comment les choses vont évoluer dans les jours à venir, mais ce qui est certain, c'est que tant que le salaire des magistrats ne sera pas amélioré dans ce pays, ils seront toujours corruptibles et les auteurs de viols ne seront jamais punis, hein, comme il se doit.
Non, je sais que nous avons présenté, le ministre sortant a présenté deux projets pour en faveur des magistrats. Il y a eu d'abord le projet de leur statut. Il a été déjà approuvé par l'Assemblée nationale. Ils sont maintenant indépendants, c'est ce qu'ils demandaient. Nous avons, le ministre a présenté encore un projet de barème de salaire qui n'a pas encore été décidé, qui doit être discuté au niveau de l'Assemblée. Mmh. Nous avons dit qu'il faut insérer ce barème de salaire dans le budget 2006, mais comme l'Assemblée ne s'était pas encore prononcée sur ce barème, et nous avons encore, le ministre a encore renouvelé pour 2007. Ce n'est pas oublier cela.
Oui. Alors, pour conclure, hein, monsieur le secrétaire général de la justice, Kabomba Bendera, il y a beaucoup de femmes, peut-être aussi des femmes violées qui vous suivent en ce moment, qui se disent comment faire confiance à la justice congolaise si les magistrats eux-mêmes sont corrompus, si on ne condamne pas les auteurs de viol, ça ne sert à rien de porter plainte et le viol va bien se porter ici en République démocratique du Congo. Hein.
Oui, je vous dis que la récréation doit prendre fin. Il n'y aura plus d'impunité. S'il vous plaît, il y aura plus d'impunité. Nous avons pris conscience, sinon ce pays ne marchera jamais.
Mais vous avez pris conscience, mais il n'y a rien qui est fait pour justement changer les choses. Il n'y a pas de prison, en tout cas les prisons qui fonctionnent correctement, il n'y en a pas. Les auteurs de viols ne sont pas condamnés pour la plupart, ils se retrouvent en liberté provisoire. Et puis certains même, c'est comme si la victime n'avait même pas porté plainte. Il n'y a pas d'accusation sur cette personne. Alors finalement, on ne résout aucun problème. Et ça aussi, qui est dramatique.
Qu'il n'y a pas lieu d'être pessimiste. Il ne faut pas être pessimiste, parce qu'à un moment donné de l'histoire, lorsque le pays marche très mal, et que vous prenez conscience, comme nous sommes allés aux élections, nous avons une troisième république, tout le monde doit apporter sa contribution, notamment les magistrats. Les magistrats, ils sont justiciables devant leur propre juridiction.
Affaire à suivre, hein. On va voir comment les choses vont évoluer.
Il faut l'accuser lorsque vous avez.
On va voir comment les choses vont évoluer, dans les jours à venir. On va voir, on verra comment les choses vont évoluer. On va vous inviter à nouveau dans ce studio afin d'en parler avec vous. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes secrétaire général de la justice, Kabomba Bendera. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à la prochaine.
Merci, maman. C'est à vous que je dis mes grands merci.
Au café,